radio du collège René Cassin de Corbas. Les élèves des classes de 3e A et 3e C sont heureux de vous présenter une émission consacrée au concours national de la résistance et de la déportation auquel elles participent. Le thème est 1940, comprendre, refuser, résister. Comprendre, la défaite de l'armée française en mai-juin 1940, l'exode, le choix de l'armistice puis l'occupation d'une partie du territoire national sont vécus par beaucoup de Français comme un véritable traumatisme. Dans le chaos du printemps et de l'été 1940, rares sont ceux qui ont compris ce qui se jouait. Refuser. Dès 1940, des actes de désobéissance et de refus individuels ou collectifs apparaissent et se multiplient. Des Français disent « non » à l'occupant allemand, aux persécutions et au régime de Vichy. Résister, c'est s'engager et donner un sens à son action. Des hommes et des femmes, de tout âge, de tout milieu, ont voulu faire quelque chose. À la suite de l'appel du général de Gaulle, ils ont inventé des formes de résistance. Ils se sont engagés dans de multiples actions pour défendre les valeurs de liberté, fraternité et de démocratie au péril de leur vie. Pour aborder ce thème, nous avons choisi de nous intéresser à quelques-uns de ces résistants et résistantes qui, à des degrés divers, ont compris, refusé et résisté. À travers leurs exemples, ce travail nous invite aussi à réfléchir au sens de l'engagement d'hier et d'aujourd'hui. Il y a 10 ans, le résistant Stéphane Hessel a lancé à l'adresse des jeunes générations « Prenez le relais, indignez-vous ! » Ainsi, nous terminerons cette émission en vous faisant partager quelques-uns de nos motifs d'indignation. Nous commençons par celui qui a le plus tôt incarné ces 3 attitudes, Charles de Gaulle. Rappelons brièvement le contexte.
La France est entrée en guerre contre l'Allemagne nazie en septembre 1939. Le 10 mai 1940, les armées allemandes envahissent les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, pays neutre. Les blindés allemands pénètrent en France par le massif des Ardennes, mal protégés. Après quelques semaines de combat, malgré l'ardeur des soldats français, l'offensive allemande aboutit à la demande d'armistice par le maréchal Pétain le 17 juin 1940.
Charles de Gaulle est né à Lille en 1890. Militaire de carrière, officier pendant la Première Guerre mondiale, il a occupé un poste dans le dernier gouvernement de la Troisième République.
Le 18 juin 1940, De Gaulle s'envole pour l'Angleterre où Churchill lui ouvre l'accès aux ondes de la BBC pour lancer son appel du 18 juin.
En réaction à la demande d'armistice présentée par Pétain aux Allemands, De Gaulle appelle à la résistance à l'ennemi. Il annonce que la victoire est possible et explique pourquoi les Français ne doivent pas perdre espoir. Dans cette guerre mondiale, écrit-il,
la France n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle et elle peut faire bloc avec l'Empire britannique.
Il rappelle le rôle que pourrait jouer
l'immense industrie des États-Unis
pour battre les États de l'Axe.
Et surtout, il exhorte les Français à ne pas laisser s'éteindre
la flamme de la résistance française.
Et invite tous ceux qui le souhaitent à venir le rejoindre à Londres pour continuer le combat.
Le 18 juin 1940, peu de Français entendent l'appel du général de Gaulle. Quelques journaux retranscrivent, le 19 juin, les paroles du général, peu connues du grand public.
Rares sont ceux qui ont répondu à l'appel. À partir du 19 juin, ils sont quelques-uns, civils ou militaires, venus individuellement ou en groupe à s'engager auprès du général de Gaulle. Quelques unités le rejoignent en juillet. En août, c'est le ralliement d'une partie des territoires français de l'Empire qui fournit à la France libre un territoire et un réservoir d'hommes. À la fin de l'année, ses effectifs se montent à 35 000.
Cet appel reste à jamais gravé dans l'histoire comme un acte fondateur de la résistance.
Depuis le 2005, le 18 juin est classé par l'UNESCO au registre de Mémoire du Monde.
Geneviève de Gaulle, proche parente du général, a rapidement entendu parler de l'appel du 18 juin. Elle témoigne de l'espoir qu'il a suscité.
Nièce du général de Gaulle, Geneviève de Gaulle est étudiante à la faculté d'histoire de Rennes lorsqu'éclate la guerre. Dans un témoignage paru à l'occasion du cinquantenaire de l'appel, dans la revue Espoir de la fondation de Charles de Gaulle, elle décrit la débâcle et l'humiliation qu'elle ressent devant la vision des premiers Allemands.
C'est alors que nous avons vu passer les premiers détachements allemands. C'étaient des motocyclistes habillés de noir, avec des casques de cuir noir et leurs grosses motos, qui vombrissaient, semblaient chanter un cri de victoire. Ceux qui ont à peu près mon âge ont connu l'humiliation de voir l'ennemi pénétrer comme cela, sans que personne ne tente de l'arrêter. Cet ennemi méprisant, cet ennemi qui nous écrasait.
Elle raconte comment elle prend connaissance de l'appel lancé le jour même à la radio de Londres par son oncle. Elle transmet également l'émotion et l'espérance que provoque la nouvelle de cet appel.
À ce moment-là, nous avons vu arriver du fond de la place un prêtre en soutane qui se dirigeait vers un groupe d'officiers pour leur faire part de ce qu'ils venaient d'entendre. Ils avaient écouté la radio de Londres et avaient entendu l'appel du 18 juin. À sa manière, il essayait de nous le dire. Il ne fallait pas désespérer, mais continuer le combat. Un jeune général, qui avait été secrétaire d'État à la Défense nationale, appelait tous ceux qui voulaient le rejoindre pour relever l'épée de France. Nous écoutions, bouleversés, et ma grand-mère, petite dame en noir, un peu courbée, à laquelle personne ne faisait attention, tira le prêtre par la manche et dit « C'est mon fils, monsieur le curé, mais c'est mon fils !» Dans cette humiliation si profonde, il y avait déjà la lumière de l'espérance, et déjà le sursaut de la fierté. Le 18 juin, c'est un mélange d'abîmes d'humiliation, un abîme de chagrin, presque de désespoir, et en même temps cet appel qui donnait déjà des raisons d'espérer et qui permettait de relever la tête.
Par la suite, les premiers actes de refus de Geneviève consistent à déchirer des affiches allemandes, fabriquer des croix de Lorraine ou arracher du pont de la Vilaine un fanion nazi qu'elle rapporte chez elle comme trophée. Avec ses amis étudiants, elle imprime et diffuse des tracts contre les nazis et le régime de Vichy. En 1941, elle entre en résistance et rejoint l'un des premiers réseaux, dit du Musée de l'Homme, à Paris. Elle transmet des messages et mène des actions de renseignement. Mais le 20 juillet 1943, elle est arrêtée puis déportée au camp de concentration des femmes de Ravensbrück. Après la libération, elle s'engage auprès des plus démunis et devient présidente de l'association ATD Quart-Monde. Elle décède en 2002. Ses cendres sont transférées au Panthéon le 27 mai 2015.
Avant d'être un grand résistant, Jean Moulin s'illustre en tant que fidèle serviteur de l'État en refusant d'obéir aux autorités allemandes.
Jean Moulin est né le 20 juin 1899 à Béziers dans une famille de culture républicaine. Après les études de droit, il devient sous-préfet puis préfet et membre de plusieurs cabinets ministériels. En mai 1940, au moment de l'invasion du territoire français par les troupes allemandes, Jean Moulin est préfet d'Eure-et-Loir. Le 14 juin, Jean Moulin est prévenu du repli de l'armée française au sud de la Loire. Dès lors, il n'est plus en relation avec sa hiérarchie. Il essaye de freiner le mouvement de panique qui s'empare bientôt des habitants de son département qui fuient à leur tour l'avancée des troupes allemandes. Premier combat rédigé entre l'hiver et le printemps 1941 est le récit, heure par heure, de la manière dont ce serviteur de l'État fait face à l'effondrement de son pays. À propos de cette journée du 14 juin, il écrit
« Il est 19h environ. Dans la cour de la préfecture, j'ai la désagréable surprise de voir tout mon personnel entassé dans des camions et prêt au départ. J'avais donné des ordres formels pour que chacun restât à son poste. Furieux, je somme mes gens de descendre et j'enjoins à chacun de reprendre son poste jusqu'à nouvel ordre. »
Malgré le dépeuplement brutal de l'administration et la désorganisation totale des communications, le préfet mobilise toute son énergie pour organiser les secours aux victimes et le ravitaillement des populations. Mais le 17 juin 1940, au matin, les Allemands entrent dans Chartres. Jean Moulin, qui n'a pas quitté son poste, les attend dans la cour de la préfecture aux côtés d'un représentant de l'évêque Etumer. Dans la soirée, des militaires allemands le somment de signer un document accusant à tort les troupes sénégalaises de l'armée française de s'être livrées à des exactions sur des civils. Le préfet refuse d'obéir. Torturé à plusieurs reprises, il tente, au cours de la nuit, de se suicider en se tranchant la gorge pour éviter le déshonneur. Maintenu à la tête de la préfecture, Jean Moulin s'emploie, au cours des mois suivants, à défendre les intérêts de la population contre les irrégularités, les délits et les exactions commises par l'occupant. Mais il est finalement révoqué par Vichy le 2 novembre 1940.
Dès lors, Jean Moulin s'engage dans la résistance. En 1941, il gagne Londres pour se rallier au général de Gaulle. Celui-ci charge d'unifier la résistance et de créer l'armée secrète confiée au général d'Estrun. Il fonde le 15 mai 1943 le Conseil national de la résistance sous l'autorité du général de Gaulle. Arrêté le 21 juin 1943, torturé, il meurt sans livrer aucun secret dans le train qui le conduit en Allemagne. Ses cendres sont transférées en 1964 au Panthéon.
Résistant de la première heure, René Cassin mène à Londres une action cruciale pour faire reconnaître la France libre comme gouvernement légitime pour la France.
René Cassin naît en 1887. Combattant pendant la Première Guerre mondiale, il fait ensuite carrière en tant que juriste et diplomate. De Gaulle, en exil à Londres, se fait reconnaître par les Anglais comme le chef des Français libres le 28 juin 1940. Mais ce que voudra De Gaulle, c'est être reconnu comme le chef de la France en attendant que les représentants du peuple français retrouvent le pouvoir confisqué par le maréchal Pétain. C'est là qu'intervient René Cassin, qui a rejoint De Gaulle à Londres dès le mois de juin 1940.
Professeur de droit, il met au point toute une argumentation basée sur sa connaissance des lois et de la Constitution pour détruire la légitimité du régime de Vichy. Il prouve que Pétain était dans l'illégalité en créant le régime de Vichy sans le consentement des Français, et qu'il a trahi les engagements militaires de la France envers l'Angleterre. Il rédige des textes qui permettent à la France libre d'être reconnue comme un gouvernement légitime pour la France et donc à De Gaulle d'être reconnu comme le chef d'État en 1944. La France, grâce à l'action de la Résistance et de René Cassin, est considérée comme un des pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale.
En 1968, René Cassin reçoit le prix Nobel de la paix, entre autres pour sa contribution à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au journal de 20h de l'ORTF, interviewé par Jean Benedetti, René Cassin évoque ainsi son engagement auprès du général de Gaulle pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Eh bien, je n'ai pas à cacher que je ne pouvais pas, eu égard à mes idées, supporter l'idée d'une France écrasée et de la justice bafouée. C'est pourquoi, dès l'appel du général de Gaulle, je suis allé à Londres. Je l'ai aidé à faire son premier accord avec Churchill. C'était la volonté de vaincre, de libérer notre pays et de substituer à l'horrible barbarie hitlérienne un régime de droit et de justice. Et c'est pourquoi, depuis la fin de la Deuxième Guerre, je me suis voué totalement à cette œuvre-là.
Fervent patriote, Félix Éboué joue un rôle décisif dans le ralliement d'une partie de l'Afrique à la France libre.
Gouverneur du Tchad depuis 1939, Félix Éboué a entendu l'appel du 18 juin 1940 lancé par De Gaulle. Révolté par la demande d'armistice lancée par le maréchal Pétain, il accueille avec émotion ce cri d'espérance lancé pendant que les pires malheurs s'abattaient sur la France. Ferve patriote mais soumis à ses supérieurs à Brazzaville et à Dakar, il prépare dans le secret le ralliement du Tchad et de l'ensemble de l'Afrique équatoriale française. En liaison avec les représentants du général de Gaulle, il annonce officiellement le 26 août 1940 l'appartenance du Tchad à la France libre. Son exemple est suivi les jours suivants par la quasi-totalité des territoires de l'AEF, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, l'Ubangui-Chari, puis le Gabon en novembre.
La portée de ces ralliements est considérable. La France libre dispose désormais d'une vaste entité territoriale qui lui donne une légitimité politique et un appui militaire. Le régiment tirailleur sénégalais du Tchad rallie en bloc la France libre et des hommes de l'AEF sont enrôlés pour constituer des bataillons engagés dans les FFL.
Félix Éboué est nommé membre du Conseil de défense de l'Empire puis gouverneur général de l'Afrique française libre le 12 novembre 1940. Il prendra une part active dans la conférence de Brazzaville de janvier à février 1944, mais épuisé, il meurt le 17 mai 1944. Il a été un des premiers nommés compagnon de la libération par le général de Gaulle le 29 janvier 1941.
Nous poursuivons avec Daniel Cordier, qui s'engage à 19 ans dans les FFL, avant de devenir le secrétaire de Jean Moulin.
Né le 10 août 1920, Daniel Cordier est un résistant engagé durant la Seconde Guerre mondiale. Au début de la guerre, il est partisan d'extrême droite et considère Pétain comme le sauveur miraculeux de la France. À 2 mois d'être incorporé dans l'armée, il veut se battre contre ceux qu'il appelle les Boches. Le 17 juin 1940, après l'annonce de l'armistice par Pétain, Daniel Cordier ne veut pas y croire. Il se sent trahi. Dans son autobiographie, alias Caracalla, il écrit au sujet de ce moment.
Ainsi, la France est morte sans que j'aie combattu. Comment est-ce possible? Ma patrie, l'orgueil de ma vie, la gloire de l'univers désignée par Dieu pour défendre sa foi, pour répandre la civilisation, modèle du genre humain, morte à jamais. Je m'accuse de ne pas l'avoir aimée suffisamment, de ne pas lui avoir tout sacrifié, puisque je suis en vie tandis qu'elle agonise. Ce malheur absolu me révèle combien j'aime mon pays. Brusquement, écrit-il encore, je me dresse. L'information qui m'a terrassé est un cauchemar sans fondement, puisque la France est invincible. Il faut soulever le pays d'une fureur sacrée, l'organiser et combattre.
Ainsi, à 19 ans, il quitte la France le 21 juin et s'engage dans les forces françaises libres. Il est l'un des tout premiers engagés. Le 1er août 1940, il rencontre le général de Gaulle, qui passe ses troupes en revue. À la question
« Pourquoi vous êtes-vous engagé ?»
Le jeune étudiant répond
« Pour libérer la France, avez-vous un souhait à formuler ?»
lui demanda de Gaulle
« Combattre le plus tôt possible, mon général. »
Tout au long des 2 années de formation militaire en Angleterre, Daniel Cordier guette les nouvelles de sa patrie. Comme tous ses camarades, il entend ainsi parler de la manifestation interdite du 11 novembre 1940 à la BBC et dans la presse de la France libre. Le courage de ces jeunes qui bravent l'interdiction de manifester, défiant ainsi Pétain et les Allemands, aiguillonne son désir de se battre. Enfin, le 25 juillet 1942, Daniel Cordier est parachuté à Montluçon. De l'été 1942 à l'arrestation de Jean Moulin le 21 juin 1943, il est le secrétaire de cette grande figure. Il participe aux côtés de Jean Moulin à la création du Conseil national de la Résistance. Après la guerre, il fait carrière comme marchand d'art. Il est mort à 100 ans en 2020.
Très jeune en 1940, Denise Domenac éprouve, comme ses aînés, le besoin viscéral de résister à l'occupant.
Elle est née le 10 octobre 1924 dans une famille aisée à Lyon et elle est morte le 19 juillet 2020.
Dans une interview pour le site Les Résistances, Denise dit que dès 1940, elle détestait Pétain. Elle se souvint avoir travesti les paroles de la chanson « Hommage » au maréchal en chantant « Tu n'es pas le sauveur de la France ». Elle raconte le 17 juin 1940 dans son journal intime.
À 1h30, nous prenons les informations de la TSF et nous entendons un discours du maréchal Pétain disant que la France vaincue et envahie a demandé l'armistice à l'ennemi. Bon papa est sorti comme un fou de la salle à manger et de loin nous entendions ses sanglots.
Le 4 octobre 1940, elle écrit
« Il paraît qu'il y a à Londres un général qui pense comme nous. »
Elle est à l'aube de ses 16 ans et Denise de Monac-Lalique a déjà depuis longtemps refusé de se résigner au pouvoir nazi. Toujours dans son journal intime, elle note
« Peut-être que c'est moi qui vais recevoir une bombe sur le rikiki. Ça m'embêterait quand même un peu de mourir comme ça, bêtement, à 15 ans. J'aime mieux mourir pour une cause noble à laquelle j'aurais fait de ma propre volonté le sacrifice de ma vie. »
Denise suit son frère Jean-Marie qui s'engage dans la résistance avec son ami Gilbert Dru. Elle commence par recopier et distribuer des tracts patriotiques.
À vélo, j'allais chercher chez l'imprimeur des journaux clandestins comme Combat ou Témoignages chrétiens que j'emmenais dans un magasin où des diffuseurs les acheminaient.
Expliquait-elle aux journalistes du Progrès 2011.
Petit à petit, ses missions se développent.
J'ai fait passer aussi des messages de l'argent des faux papiers. En novembre 1942, alors que Lyon est occupé par les Allemands, j'avais pris des cours de calligraphie. J'initiais la signature de commissaire de police sur de faux papiers. Cela se passait dans les sous-sols de la faculté des lettres. On avait un appariteur qui faisait le guet et donnait l'alerte en cas de danger.
En 1942, elle rejoint les forces unies de la jeunesse. Puis, en 1943, elle intègre les jeunes chrétiens combattants. En mai 1944, Denise devient responsable des jeunes des mouvements unis de la résistance. Recherchée par la Gestapo, elle entre en clandestinité au mois d'août. Elle fuit ensuite dans la Drôme le 19 août 1944. Alors que la victoire est proche, elle confie à son journal.
Toutes ces morts m'accablent, et il me semble que je suis un peu morte moi aussi.
À la Libération, Denise Domenac-Lalique fait partie du mouvement de Libération Nationale, où elle représente les jeunes de la région Rhône-Alpes. Elle meurt à Lyon en 2020.
Pour Stéphane Hessel, qui avait lui aussi rejoint De Gaulle à Londres en 1941, le motif de base de la résistance, c'était l'indignation. Écoutons-le lorsqu'il nous demande, en 2010, de nous indigner encore.
Nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, nous appelons les jeunes générations à faire vivre, transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux. Nous leur disons, prenez le relais, indignez-vous. Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. Quand quelque chose vous indigne comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. La pire des attitudes est l'indifférence.
Maintenant, donnons la parole aux élèves du collège. Aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qui vous indigne le plus? Pour quelle cause seriez-vous prêt à vous engager?
Moi, c'est la faim dans le monde. Ce qui me choque dans la société, c'est le fait qu'on surconsomme beaucoup et que dans certains pays, ils ont accès à très peu de choses comparées à nous.
La destruction de notre environnement, qui montre bien la cupidité de l'homme à ne penser qu'à lui.
L'homophobie et le racisme. Le racisme... parce que c'est pas tolérable de discriminer une personne pour sa couleur, puisqu'on la choisit pas. Et l'homophobie, parce que on aime qui on veut et on n'a pas le droit de juger une orientation sexuelle.
Ce qui m'indigne le plus aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui vivent dans la rue et qui n'ont rien, et que d'autres ont beaucoup trop.
Je suis pour l'écologie, voilà. Je suis pour l'écologie, donc je serais prêt à m'engager pour...
Ouais, ce qui me choque, c'est qu'en 2021, il y a encore beaucoup de pauvreté en France. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de toit où dormir, ni de la nourriture pour manger chaque jour.
Pour les droits des femmes, bien sûr, parce qu'il y a encore des problèmes d'inégalité qui sont très présents en France.
Moi, ce qui me révolte, c'est que les personnes handicapées, elles n'ont pas les moyens de payer leurs soins. Et j'aimerais aussi... développer peut-être une association pour trouver ou collecter des fonds et les aider autant que je peux.
Je serais prête à m'engager pour faire entendre les voix des personnes qui sont persécutées en Chine parce qu'elles sont d'origine ouïghour.
Contre le racisme et l'homophobie, parce que ça me révolte, je trouve que c'est pas normal qu'on harcèle ou même qu'on discrimine des personnes parce qu'elles sont différentes et ne rentrent pas dans la norme. On est en 2021, il faut que ça change.